Le libre dans tous ses états, c'est un tout petit bout de divergence numérique que vous retrouvez tous les jeudis à 12h30 et 17h30. On va parler traduction, langage avec le logiciel Olanto et c'est Karim Benzineb qui est avec nous, avec Jacques Guyot. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Alors Olanto, pourquoi ce nom? Parce que ça fait un peu penser à Esperanto, évidemment, pour la dernière syllabe,
oui.
Mais puis lent pour les langues. Alors est-ce que c'est le fruit d'un savant, d'une savante réflexion marketing ou y a-t-il une autre histoire, une autre anecdote derrière ce nom?
Non, alors c'est beaucoup plus simple, c'est juste l'abréviation de Open Language Tools.
D'accord, ah bah oui, voilà, ça tombe sous le sens.
Donc ça marche.
Alors comment est né ce projet et quel âge a-t-il, entre guillemets?
Alors la conception du logiciel lui-même est assez ancienne, ça remonte à une douzaine d'années. Jacques et moi, à l'époque, on avait une société d'édition de logiciels et on faisait des outils d'aide à la traduction, essentiellement pour les organisations internationales à Genève, un peu partout dans le monde d'ailleurs. Depuis quelques années, on a changé un peu la formule. C'est juste Jacques et moi, une toute petite société de consultants qui s'appelle Simple Shift. Et il se trouve que des anciens clients nous ont demandé d'écrire les nouvelles versions de ces logiciels-là. Mmh. Et donc là, on a dit on ne veut plus devenir des éditeurs de logiciels parce que c'est juste les deux.
À l'époque, c'était un logiciel propriétaire?
Voilà, c'était propriétaire, mais on avait une équipe de développeurs, des ingénieurs, etc. Voilà. Donc là, on a dit on va procéder différemment. On veut bien l'écrire pour vous, mais vous financez ce que vous voulez financer. On développe exactement ça. Et ensuite, on le distribue en logiciel libre.
Mmh.
Et curieusement, les organisations ont accepté. Donc je voulais passer un grand coup de chapeau au CERN au départ, parce que c'est avec eux qu'on a démarré le projet. Et donc la version de base de cet outil, du premier outil qui s'appelle MyCat, a vu le jour comme ça. Alors la fondation Olanto, donc c'est une fondation suisse à but non lucratif, on l'a mise sur pied juste à l'instant, là, la semaine dernière on a signé les papiers chez le notaire, et la première version de MyCat est publiée depuis hier soir.
Donc
c'est vous dire si c'est vrai, mais on a mis justement en place cette fondation pour distribuer ces logiciels et puis les gérer. On va évidemment contribuer activement, on a financé cette fondation, on va contribuer activement à ces activités, mais on lance aussi un petit appel, on aurait besoin d'un coup de main pour faire le travail.
Alors dans quel domaine particulier vous recherchez des contributeurs?
Alors pour répondre à cette question, il faut peut-être que je décrive rapidement ce que doit faire la fondation.
Mm-hmm.
Donc sa mission, c'est de constituer une boîte à outils complète, d'outils d'aide à la traduction. Au départ, on a déjà un logiciel qu'on distribue, et puis au fil du temps, on voudrait l'étoffer un petit peu. Donc on cherche à la fois quelques développeurs, pas beaucoup, un petit nombre, mais des gens assez motivés pour nous aider à écrire les choses qui restent à écrire. C'est surtout du Java, en fait.
Mm-hmm.
Et puis, on cherche aussi des corpus, c'est-à-dire des collections de documents. Alors, très important qu'ils soient libres de droit,
oui.
Et qu'on puisse mettre dans ces outils pour d'abord montrer ce qu'ils peuvent faire. Et puis, les traducteurs peuvent s'en servir directement. C'est gratuit, mmh. C'est sur la fondation olanto.org. Donc, le logiciel lui-même, c'est les pelles et les pioches. Mais s'il n'y a pas de contenu dedans, il ne sert pas à grand-chose.
D'accord.
Donc voilà, on cherche à la fois un peu des gens pour nous donner un coup de main sur le codage. Et puis, un petit peu de contenu, quoi.
Donc, il s'agit bien d'un outil d'aide à la traduction pour des traducteurs et non pas d'un traducteur automatique, en quelque sorte, comme on peut le voir sur les modes d'emploi de certains appareils qui sont rédigés n'importe comment.
Alors, la traduction automatique, on peut dire un petit mot. D'abord, elle a fait des progrès avec Google Translate. Je pense que pas mal de gens ont testé ça récemment. Donc, ce sont des méthodes statistiques qui sont complétées par des petites méthodes, disons, plus linguistiques. Mais à la base, c'est vraiment des méthodes statistiques. Ça a beaucoup progressé. Il ne faut pas lui jeter la pierre, cet outil-là. Il peut avoir son utilité dans certains cas assez particuliers. Et il se trouve qu'Olanto a déjà en fait, un outil comme ça. Il n'est pas encore distribué parce qu'on n'a pas encore de version bien facile à distribuer. Mais on a un roadmap et d'ici le mois de septembre, on va en distribuer un. Il y a un open source qui s'appelle Moses, qui est fait à l'Université d'Édimbourg, qui est un peu le moteur universellement utilisé dans le métier. Et autour de ça, on a développé ce qu'il faut pour en faire une solution professionnelle.
Mmh.
Donc ça, ça tourne aujourd'hui dans des organisations internationales, y compris au CERN. Et ce sera distribué vers le mois de septembre. Mais il faut vraiment le voir, ce n'est pas un outil qui fait la traduction à la place du traducteur. C'est vraiment un outil qui va proposer une traduction dans certaines situations où il est assez efficace.
Mmh. Et justement, pour proposer ces multiples pistes de traduction au traducteur, ça marche comment techniquement?
Alors le concordancier, l'outil MyCat qu'on a déjà commencé à distribuer depuis hier, lui, en fait, tout ce qu'il fait, c'est exploiter des traductions existantes. C'est-à-dire, quand on a des documents qui ont déjà été traduits par le passé, on les exploite en disant, ben voilà ce terme que tu cherches, voilà un document en anglais, par exemple, où il apparaît, et voilà en face le document français, donc sa traduction, telle que ça avait été fait, avec tout le contexte autour. Mmh. Donc le traducteur, la traductrice va regarder ça et dire, ben, je peux m'en servir ou pas. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, une sorte de moteur de recherche amélioré, moteur de recherche bilingue, on va dire. Par contre, le traducteur automatique, lui, c'est très différent. On l'entraîne, il construit un modèle probabiliste, il regarde l'anglais, il regarde le français, il dit, ben, le plus souvent, cette expression-là a été traduite comme ça. Donc, je vais considérer que ça, c'est une bonne traduction. Et puis, il apprend un petit peu à reconstruire une phrase à partir de fragments. Et puis, il essaye de remettre un peu des majuscules, des points là où il faudrait. C'est pas encore Byzance, hein, mais ça a déjà bien progressé. Et puis, je pense que dans les années à venir, c'est assez prometteur.
Et on peut dire qu'on peut garder une phrase sur deux à peu près.
Voilà. Actuellement, une phrase sur deux est à peu près utilisable. En traduction automatique.
D'accord. Est-ce qu'on peut envisager qu'un jour, le logiciel arrive à faire la différence dans le contexte entre une expression et une autre, à traduire des romans ou de la poésie ?
Alors, je dirais la stylistique, c'est pas le plus dur. Mm-hmm. Parce que comme Moses, il apprend comme un enfant. Il apprend ce qu'on lui montre et il répète. Donc si vous lui apprenez bien, il répète bien et il fait des bonnes phrases. Par contre, là où c'est beaucoup plus embêtant, ce sont les ambiguïtés. Si vous avez un mot comme avocado, avocat pardon, en français, en anglais ça va être avocado, le fruit, ou bien lawyer, l'homme de loi.
Oui.
Et ça, effectivement, c'est le contexte qui est porteur de l'information. Alors, un outil comme Moses regarde un peu les mots autour, mais il travaille à l'unité de la phrase, et souvent, le contexte, il est avant ou après. Donc il va probablement falloir qu'on l'étoffe un petit peu. On est encore très très loin de l'outil qui peut se débrouiller tout seul. Par contre, dès à présent, dans un domaine ce qu'on appelle du vocabulaire contrôlé, des phrases courtes, simples, techniques, ça peut être effectivement de la localisation de logiciels, ça peut être des prévisions météo. Tout ce qui est peu ambigu, il s'en sort plutôt bien.
Ouais, ça paraît assez logique. Si c'est pas ambigu, c'est que mathématiquement, il y a...
Voilà,
y a
la probabilité est très élevée, donc il fait plutôt du bon travail.
Alors par rapport aux autres logiciels qui existent sur le marché, peut-être qu'ils soient libres ou qu'ils ne soient pas libres, les particularités de ce logiciel, ce sont lesquelles en fait ?
Alors pour MyCat, qui est le concordancier, donc le moteur de recherche amélioré, on va dire, là c'est assez simple. Sur le marché, il y a trois produits, et les deux autres sont propriétaires. Donc ils sont assez coûteux, ce sont des bons outils, mais il n'y avait rien dans le domaine du logiciel libre. Et puis comme le métier du traducteur change, de plus en plus on demande à des traducteurs qui sont loin de travailler de façon collaborative sur des documents, on est obligé d'avoir un outil web-based, et puis on ne peut pas commencer à compter des licences, parce que parfois vous avez 150 traducteurs qui travaillent sur un projet, et si vous devez payer une licence pour chacun, on n'y arrive plus. Quoi.
Ouais.
Donc il y avait de toute façon une place pour le logiciel libre là-dedans, et la particularité de notre outil, c'est surtout ça. Au départ, il fait à peu près ce que font tous les autres concordanciers, mais il est libre de droit. L'outil Moses, l'outil de traduction automatique, statistique, alors il y a effectivement pas mal d'outils propriétaires. Moses est le seul libre, mais Moses n'est pas une solution en tant que telle. C'est un décodeur et autour, il faut des modules pour pouvoir transformer le décodeur en logiciel professionnel. Et c'est ça qu'on a écrit et qu'on distribue. Donc la particularité du Moses, ce serait plutôt d'être le premier outil complet dans ce domaine-là. Voilà, donc ils ne font pas plus ou mieux que les autres, ils font la même chose, mais ils sont libres de droit.
Oui, et puis surtout, ce qu'on peut ajouter, c'est que par rapport à l'utilisateur, c'est vraiment entraîné sur le style de ses documents et sur son vocabulaire. Donc par exemple, au CERN, c'est vraiment les textes de physique qui vont être...
Une anecdote ici, on faisait des tests sur les avis de vacances, les offres d'emploi au CERN, et ils cherchaient un docteur en physique nucléaire, et l'outil a super bien traduit ça, vraiment, c'était très très bien. Et ensuite, on a traduit un appel d'offres pour un jardinier. Et là, l'outil s'est complètement planté. Ces jardiniers ont tendance à pas utiliser d'accélérateur de particules pour couper l'air. Et donc, ils savaient vraiment pas, ils comprenaient rien, quoi. Les phrases étaient mal foutues. Voilà, donc ce sont des outils qu'il faut beaucoup personnaliser pour les clients.
L'avenir des logiciels de traduction, ça pourrait être un jour d'arriver à traduire de la grande littérature ou avec une espèce de fonction esthétique.
Je le vois.
Ou ça restera toujours l'apanage du cerveau humain.
Je pense qu'il ne faut pas confondre les utilisations. Aujourd'hui, il y a deux domaines de la traduction. Il y a la traduction esthétique. Tout ce qui est littérature, en fait, c'est un plaisir. Il faut que ça en reste un. Et tout ce qui est artistique, à mon avis, c'est l'apanage de l'humain. Par contre, aujourd'hui, en traduction, on a un gros souci. C'est qu'on a une planète entière, une économie mondialisée et les gens qui n'arrivent pas à se comprendre. Et là, il faut vraiment, je dirais, une traduction utilitaire. Et je crois que la traduction, surtout automatique, et tous les outils d'aide à la traduction, ils vont d'abord aller dans ce sens-là. En plus, c'est là qu'il y a du cash. Mais je pense qu'ils vont d'abord être utilitaires avant d'être artistiques.
Karim Benzineb, merci.
Merci
pour cette,
à vous.
Explication. Jacques Guyot, merci aussi. Divergence numérique, l'actualité du logiciel libre sur Divergence est tous les jeudis à 12h30 et 17h30. Terror States.